Un premier verset, peut-être en rapport avec le cantique dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, le début du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous. C'est une expression remarquable de la part de l'apôtre Paul, qui a rencontré tellement d'épreuves, d'afflictions. De persécution. Et donc nous pouvons nous aussi rencontrer des difficultés, des épreuves, et nous souvenir de l'amour de notre Sauveur et de notre Seigneur. Nous souvenir que comme il l'a fait pour Pierre, nous pouvons lire cette expression dans Luc 22, verset 32, « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Et donc, là, voyons dans Éphésiens que l'apôtre s'adressait à cette assemblée et leur disant, quelles que soient les difficultés que lui pouvait rencontrer, que ce ne soit pas un motif pour eux de perdre courage. Si nous regardons notre carrière, sans doute chacun, nous avons des moments où peut-être que notre foi a pu défaillir, des moments difficiles en rapport avec des épreuves personnelles, des épreuves de famille, ou même des épreuves d'assemblée. Et c'est une expression remarquable. Quand l'apôtre s'adresse à nous-mêmes à travers les Éphésiens, c'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage. Se souvenir de l'amour constant de notre Sauveur et notre Seigneur. Et sans doute qu'il y a beaucoup de dangers à se lasser. Et si nous lisons attentivement peut-être quelques versets dans la parole de Dieu, dans les évangiles en particulier, nous souvenir toujours, si nous avons cette tendance à fléchir, nous souvenir de l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Pourrions lire d'abord peut-être dans Luc, que verset Luc 18, verset 1er. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Encore, avant peut-être d'y revenir, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point. Verset 16, C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur celle qui ne se voit pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Je crois que il y a encore cette expression dans les Galates. Galates chapitre 6, sauf erreur. Verset 9. Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Encore dans 2 Thessaloniciens, je crois. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. Et encore dans l'épître de Jacques, je crois, la fin du chapitre 4. Verset 17, pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché. Si nous rencontrons des difficultés, si nous rencontrons des épreuves douloureuses, eh bien, nous voyons que le Seigneur, à travers la parabole de Luc 18, il nous demande, à travers l'exemple de cette veuve qui importunait ce juge inique, eh bien, de se lasser de prier. Et avoir un cœur qui est consacré à la prière, un cœur qui n'est pas distrait. Et donc, nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus dans Luc, qui passait aussi, nous est dit, je crois, dans Luc 6, je ne me souviens peut-être pas du passage, qui passait la nuit à prier. Et donc, dans cette parabole, nous voyons que le Seigneur nous dit de ne pas se lasser, de toujours prier. Et nous savons que la prière nous parle de dépendance, d'une relation intime avec notre Sauveur et avec notre Seigneur et avec notre Dieu et Père. Et donc, nous souvenir de l'exemple de notre bien-aimé Sauveur qui priait et qui, toute sa vie, à manifester cette dépendance avec son Dieu et Père à travers la prière. Est-ce que dans la vie de tous les jours, nous avons cette attitude de dépendance envers notre Dieu? Est-ce que nous allons à Dieu constamment? C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, est-ce que notre âme se tourne vers Dieu pour trouver toujours du soutien ou du secours? Est-ce que nous persévérons dans la prière sans nous décourager? Pouvons-nous nous décourager parce que la réponse à nos prières tarde? Mais nous savons que notre Dieu, je crois que ça nous est dit dans différents psaumes, écoute la prière des fidèles, de ceux qui craignent son nom. Et il n'est pas homme pour oublier ses prières. Et ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas pour prier. Dans la parole de Dieu, nous avons trois sortes de prières. Nous avons la prière personnelle, la prière en famille et la prière en assemblée. Et nous pouvons, quelquefois par lassitude, oublier une de ces formes de prière, que ce soit la personnelle ou en famille ou en assemblée. Mais Dieu désire que les siens aient toujours cette communion pratique avec lui par la prière. Je crois que c'est dans le psaume 81 qui nous est dit quelque chose. Oui, psaume 81, verset 10, la deuxième partie, nous est dit « Ouvre ta bouche, toute grande, et je la remplirai. » Est-ce que nous avons habituellement ce désir de nous tourner vers notre Dieu et d'ouvrir notre bouche toute grande et pour attendre de la réponse à nos prières? Je crois que dans le Cantique des Cantiques, il nous est dit aussi quelque chose. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. C'est le bien-aimé qui s'adresse à la bien-aimée au milieu du verset 14 du chapitre 2, et il lui dit « Fais-moi entendre ta voix ». Ce sont des expressions magnifiques, et nous voyons que le bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur qui nous aime, eh bien il se plaît à entendre notre voix quand nous nous adressons à lui personnellement ou en famille ou en assemblée. Fais-moi entendre ta voix. Voilà ce qu'il dit à la bien-aimée. Et il leur dit donc une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Est-ce que nous nous sommes lassés? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous voyons que la première expression du chapitre 4 au verset 1er est en rapport avec le ministère. Les premiers sujets de la deuxième épître aux Corinthiens est le ministère par l'Esprit de l'apôtre Paul, et il nous donne son exemple. Et donc, en ce qui nous concerne, nous ne dirons pas que nous avons un ministère. Nous avons sans doute chacun un service que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Et l'apôtre dit que si nous avons reçu un service, et nous avons tous reçu un don de grâce de la part de Dieu, et si nous avons reçu un don de grâce, eh bien, il faut exercer ce don. Et au don de grâce correspond, bien sûr, un service pour Dieu. Et d'abord, nous devons nous poser la question, quel est le service que j'ai reçu? Et nous voyons que l'apôtre, au premier verset du chapitre 4, il nous dit que si nous avons reçu un ministère ou un service, eh bien, c'est uniquement sur le pied de la grâce de Dieu, sur le pied de la miséricorde divine. Et nous voyons que si nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons reçu par grâce un don à exercer et un service, eh bien ce don est lié à notre responsabilité. La responsabilité d'accomplir le service qui nous a été confié et de ne pas se lasser. Et nous avons un exemple dans la parole de Dieu, Jean qui est appelé Marc, Jean-Marc, d'un croyant qui a abandonné le service pour lequel il avait été appelé. Il était parti un temps avec l'apôtre Paul et Barnabas, et puis il y a eu une séparation dont on comprend peut-être pas exactement les motifs, et donc les motifs ne nous sont pas donnés, et donc nous voyons que ce Jean-Marc, eh bien, il avait abandonné, il s'était lassé. Mais dans l'Épître aux Colossiens, nous voyons aussi que le Seigneur s'est souvenu de lui, et sans doute qu'il avait prié pour lui, puisque nous voyons son rétablissement, et l'apôtre Paul donc le recommande aux Colossiens. Et pouvons lire aussi peut-être dans les Colossiens, dans le chapitre 4, il est parlé de quelqu'un, d'un frère qui s'appelait Archippe. Colossiens 4, verset 17, et dit à Archippe, « Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. » Nous pouvons penser, bien sûr, à l'amour de notre Sauveur. Et nous en avons dit effectivement quelque chose ce matin. Mais si nous sommes sauvés par grâce et que nous avons reçu un don de la part de Dieu, un don de grâce aussi, eh bien, nous avons une responsabilité. Et si nous pouvons nous réjouir en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons aussi faire face au fait que nous avons des responsabilités sur cette terre. Et que, sans aucun doute, que nous soyons frères ou sœurs, nous avons des services particuliers, différents, mais particuliers. Et on peut se souvenir d'une expression qui a été employée par un de nos devanciers qui disait que la course chrétienne n'était pas une promenade. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous promener. Nous sommes sur la terre comme des serviteurs et comme des servantes. Et nous voyons dans Colossiens 4, et sans doute que le Seigneur veut toujours, à travers la parole de Dieu, nous mettre en garde. Verset 17 est dit à Archippe, « Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. » Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qui ont oublié qu'ils ont un service à accomplir pleinement et qu'ils ont reçu ce service de la part de Dieu. On a parlé sur le mot archippe, la signification. La signification, on a donné comme signification le fait que c'était un éleveur de chevaux. Un hippe, c'est un cheval, Archip. Et il semble que c'était quelqu'un qui était plutôt dans les affaires, peut-être un agriculteur qui faisait de grands élevages de chevaux, mais de telle manière que son activité professionnelle lui avait fait oublier qu'il avait un service à accomplir pour son Seigneur. Et si nous revenons à 2 Corinthiens 4, et si nous avons à nous souvenir de l'amour de notre Seigneur et de notre Sauveur à notre égard, comme nous l'avons exprimé, eh bien, ne nous lassons point non plus dans le service qu'il nous a confié. Au verset 16, l'apôtre insiste à travers cette expression, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Et on peut se lasser dans des circonstances opposées, extrêmement difficiles. Et nous voyons dans le même chapitre, un peu quelques versets auparavant, l'apôtre Paul qui dit, verset 8, qu'il a connu la tribulation, qu'il a connu la perplexité, c'est-à-dire il ne savait pas quelle était la volonté de Dieu, à cause peut-être de circonstances opposées. Et il souligne, mais non pas abandonné. Et c'est quelque chose de remarquable, c'est que notre Sauveur et notre Seigneur ne nous oublient pas. Il y a une expression aussi dans Ésaïe où il est dit que nous sommes portés. Il nous porte dans certaines circonstances parce que nous risquons de nous décourager ou de tomber dans le découragement. Et là, l'apôtre il souligne, verset 8 d'abord, non pas sans ressources, la ressource de l'amour de notre Sauveur, la ressource de notre souverain sacrificateur, la ressource de notre avocat qui plaide auprès de notre Père. Et nous pouvons, verset 9, être abattus. Et donc nous voyons que l'apôtre avait connu de telles situations extrêmement difficiles. Mais il ajoute au verset 16, ne nous lassons point. Ne nous lassons point. Tribulation, persécution, situation sans issue. Et donc il fait même une allusion au corps humain qui est caractérisé par la faiblesse. Et nous savons que dans la parole de Dieu, le corps humain est appelé le corps de notre abaissement. Et donc, nous pouvons connaître des situations en rapport avec cet abaissement, le corps de notre abaissement. Et un peu avant, toujours dans ce chapitre, il nous parle, l'apôtre nous dit que nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire des vases fragiles. Mais souvenons-nous toujours de l'amour du Sauveur, de l'amour du Seigneur, qu'il prie pour nous. Et nous pouvons traverser donc des circonstances éprouvantes. Et l'apôtre nous parle ici de l'homme extérieur qui peut dépérir. Mais nous voyons aussi comme consolation que l'âme du croyant, l'homme intérieur, est renouvelée de jour en jour. Et comment ? Eh bien, par notre communion avec notre Seigneur qui est glorifié dans le ciel. L'apôtre ajoute, que les tribulations d'aujourd'hui, ce que nous pouvons rencontrer, les difficultés, ne sont rien en comparaison de la gloire à venir, la gloire qui nous attend, et que ces tribulations, eh bien, elles sont, et c'est l'apôtre qui parle, légères et momentanées, mais pour nous peut-être pesantes, difficiles. Et donc, le secret pour traverser ces épreuves, eh bien, c'est de regarder à la ressource suprême, de regarder au Seigneur Jésus. Encore dans les Galates, pour nous souvenir simplement, Galates 6, « Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. » Et donc, l'apôtre, dans le verset 8, il nous parle de ce qui est semé par l'esprit et non pas ce qui est semé par la chair. Eh bien, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Et l'apôtre fait tourner nos yeux vers le ciel, sans doute vers le tribunal de Christ, où chacun pourra recevoir sa récompense selon ce que nous aurons fait. Et nous aimons à insister sur les ressources que nous avons dans le Seigneur. Nous savons, nous le disons souvent dans Jean 13, que le Seigneur a aimé les siens jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Nous avons l'amour de notre Sauveur et de notre Seigneur, lui qui prie pour nous, lui qui nous porte quand nous sommes défaillants. Il nous porte sur son cœur, il nous porte sur ses épaules. Ne nous lassons point. Ne nous lassons point de prier, ne nous lassons point de regarder à lui, ne nous lassons point dans le service que nous avons reçu, ne nous lassons point quand nous avons affaire à des difficultés de tous ordres dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille et d'assemblée. Ne nous lassons point de faire le bien.
201. 36, strophe 2 et 4.
Thank you.